Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de commémoration. C'est vrai que les États aiment bien célébrer les événements qui ont marqué l'histoire de leur pays, et c'est bien naturel. L'histoire a besoin de support pour vivre. En France, à cette période de l'année, nous avons chaque mois une ou deux commémorations à fêter. Et par exemple, en mai, c'était le 8 mai, l'armistice, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En juin, c'était d'abord le 6, la commémoration du débarquement en Normandie. Puis le 18, l'anniversaire de l'appel de Gaulle qui fondera la résistance française contre l'invasion allemande. Puis en juillet, ce sera le 14 juillet, notre fête nationale, qui commémore à la fois la prise de la Bastille et la fête de la Fédération. Alors oui, bien sûr, la population adhère plus ou moins à ces célébrations. Pour beaucoup de personnes, ces événements ne sont marquants que quand ils correspondent à un jour de congé, parce qu'un jour de congé, c'est toujours bon à prendre. Mais pour beaucoup de personnes, ça s'arrête là. Bien sûr, il y a des bals quelquefois, des vins d'honneur, mais certaines personnes, même qui participent, ignorent même à quoi correspondent vraiment les dates, et elles y sont d'ailleurs complètement indifférentes. Pour d'autres, c'est seulement l'occasion de réveiller leur nationalisme, voire la xénophobie. D'autres encore respectent ces jours sans toutefois être conscients de l'impact que cela a eu sur la nation. Pourtant, il faut reconnaître qu'il y a des personnes pour qui ces célébrations sont vécues avec beaucoup d'émotion, peut-être parce que leur famille a été endeuillée ou à cette occasion, ou peut-être même que des membres de leur famille se sont illustrés. Et donc, malgré que plusieurs générations aient passé, ces célébrations font ressurgir des souvenirs de leur histoire familiale. Le 6 juin dernier, j'ai vu un reportage sur un vétéran de l'armée américaine venu en Normandie l'an dernier pour le 80e anniversaire du débarquement. Et il a été présenté aux jeunes enfants d'une école, eux-mêmes descendants de personnes qui ont vécu le débarquement du côté français sur les côtes normandes. Or, les enfants, probablement déjà bien informés par leurs parents et préparés aussi par leurs professeurs, posaient des questions très pertinentes sur ce que cet homme avait ressenti en arrivant sur les plages françaises en 44. Les yeux écarquillés devant celui qu'il considérait comme un héros, il buvait littéralement ses paroles. Il faut dire que ce n'est pas banal qu'un jeune homme s'engage comme volontaire à 18 ans, simplement informé de l'invasion nazie par la TSF. Il n'avait pas hésité à traverser l'Atlantique pour venir sauver des gens qu'il ne connaissait pas dans un conflit qui n'intéressait que très peu de ses contemporains, de ses compatriotes. Modestement, le vieil homme affirmait « Je ne suis pas un héros. Quand les péniches de débarquement nous ont déposés, nous avions de l'eau jusqu'au cou, et je voyais mes camarades tomber à droite et à gauche autour de moi, et si j'avais pu remonter dans la barque et repasser la manche pour me retrouver de l'autre côté, je l'aurais fait. J'avais plus le choix, je ne pouvais qu'avancer. » Cet homme, les larmes aux yeux, revivait ces moments terribles en pensant à ce jour où tant d'hommes ont donné leur vie pour notre liberté. Et dans ses propos, on sentait presque qu'il était culpabilisé d'avoir survécu. De leur côté, les jeunes enfants étaient captivés et pleins d'admiration pour cet homme qui leur expliquait d'une manière tellement simple des heures pourtant tellement terribles. La population se sent de moins en moins concernée par ces commémorations. Il faut reconnaître que le temps a passé, 8 décennies. Nous n'avons plus tellement l'occasion de penser aux sacrifices consentis par des milliers d'Américains, d'Anglais, de Canadiens, d'Australiens et d'Africains qui ont quitté leur pays où la plupart vivaient dans la paix, pour débarquer sur nos plages sous le feu des mitrailleuses. C'est d'ailleurs pour ça que ces célébrations ont lieu, et c'est pour ça aussi qu'elles sont nécessaires. De toute façon, que nous soyons conscients de ces sacrifices ou pas, que nous soyons reconnaissants ou pas, nous devons une partie de notre liberté à ces hommes qui ont quitté le confort de leur pays pour venir chasser l'ennemi qui occupait le nôtre. C'est un fait que nous ne pouvons nier. Alors nous, chrétiens, nous avons aussi nos commémorations. Elles marquent notre calendrier. Alors il y a Noël, il y a Pâques, l'Ascension, la Pentecôte. Mais il y a une commémoration en particulier que lui-même, Jésus, a instituée. Un soir, Jésus était avec ses disciples pour célébrer la Pâque, qui rappelait au peuple hébreu sa sortie d'Égypte. Et il a dit en distribuant le pain et le vin, « Faites ceci en mémoire de moi. » Je vais lire ce récit dans l'Évangile de Luc, chapitre 22, versets 14 à 23. « Quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table avec les apôtres et il leur dit, « Combien j'ai désiré prendre ce repas de la Pâque avec vous, avant de souffrir. Car je vous le déclare, je ne le prendrai plus jusqu'à ce que son sens soit pleinement réalisé dans le royaume de Dieu. » Il saisit alors la coupe, remercia Dieu et dit, « Prenez cette coupe et partagez-en le contenu entre vous, car je vous le déclare dès maintenant, je ne boirai plus de vin jusqu'à ce que vienne le royaume de Dieu. » Puis, il prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il leur donna de même la coupe après le repas en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, garantie par mon sang qui est versé pour vous. Mais regardez, celui qui me trahit est ici, à table, avec moi. Certes, le Fils de l'homme va mourir suivant le plan de Dieu, mais quel malheur pour celui qu'il trahit. » Ils se mirent alors à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui allait faire cela. Oui, nous répétons presque chaque dimanche ce partage du pain et de la coupe pour perpétrer ce que Jésus a demandé. Mais comme pour toutes les commémorations nationales, beaucoup de temps a passé, non pas quelques décennies, mais 20 siècles. Et nous pouvons prendre la Sainte Cène d'une manière superficielle, dans la routine, par habitude, oubliant que notre héros, notre Seigneur, a quitté son ciel de gloire pour s'offrir en sacrifice et chasser l'ennemi qui avait pris possession de nos êtres. Nous pouvons vivre cette commémoration avec plus ou moins d'indifférence, mais nous pouvons aussi nous sentir vraiment concernés. La première condition pour être concerné, c'est bien sûr d'être conscient qu'un ennemi occupe ou a occupé notre terrain. Il faut admettre que notre corps, notre âme, notre esprit ont été, ou même sont encore, sous l'emprise d'un adversaire. Dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 6, versets 11 à 13, Paul écrit « Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit, afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. C'est pourquoi, saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. » Et ensuite, Paul énumère toutes les armes que vous connaissez, la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Lorsque les alliés ont débarqué, Certains les ont accueillis comme des libérateurs parce qu'ils se savaient opprimés, parce qu'ils n'avaient pas la nourriture en suffisance, parce qu'ils manquaient de liberté, parce qu'une dictature étrangère conduisait leur pays. Mais pour d'autres, ceux qui avaient pactisé avec l'ennemi, ils manquaient peut-être de rien et avaient choisi de se soumettre à cet ennemi. Ils ne se sentaient pas libérés. Ceux qui avaient pactisé avec l'ennemi, ils ont subi le même sort que l'ennemi. Impossible d'être des deux camps en même temps, même si certains ont essayé de jouer double jeu. Nous, de même, nous ne pouvons pas accepter Jésus comme notre sauveur tout en pratiquant les œuvres dans lesquelles l'ennemi nous avait enfermés. Nous ne pouvons pas être reconnaissants si nous n'avons pas conscience d'avoir été libérés, et nous ne pouvons pas avoir conscience d'avoir été libérés si l'influence de l'ennemi dans nos vies ne nous pose pas de problème. Dans le texte de l'évangile de Luc que nous avons lu tout à l'heure, Jésus parle de son corps donné pour nous, de son sang versé pour nous. Oui, il est mort, on l'a chanté à plusieurs reprises dans les chants tout à l'heure, à notre place, et il nous demande de nous souvenir de cela. Mais il n'y a pas que cela. Il nous parle aussi d'alliance. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu garantie par mon sang qui est versé pour vous. Et autant que je sache, une alliance, elle n'est pas à sens unique. Elle engage toujours deux parties. Lorsque nous prenons la coupe, nous prenons aussi un engagement. Pierre résume très bien cela dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 11. Par sa divine puissance, le Seigneur a donné tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa gloire, à sa propre gloire et à son œuvre merveilleuse. C'est ainsi qu'il nous a accordé les biens si précieux et si importants qu'il avait promis, afin qu'en les recevant, vous puissiez échapper aux désirs destructeurs qui règnent dans le monde et participer à la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite, à la bonne conduite, la vraie connaissance de Dieu, à la connaissance, ajouter la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, et à la persévérance, l'attachement à Dieu. Enfin, à l'attachement à Dieu, ajouter l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle, l'amour. Si vous avez ces qualités, et si vous les développez, elles vous rendront actifs et vous feront progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas a la vue si courte qu'il est comme aveugle, il oublie qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous encore plus de prendre au sérieux l'appel de Dieu qui vous a adressé et le choix qu'il a fait de vous. Car en faisant cela, vous ne tomberez jamais dans le mal. C'est ainsi que vous sera largement accordé le droit d'entrer dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et oui, Pierre, dans ce texte, nous dit que le Seigneur a tout donné, tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu, qu'en recevant ces biens précieux offerts par Jésus, nous pouvons échapper aux désirs destructeurs qui règnent dans le monde, et même participer à la nature divine. Mais malgré que tout cela nous soit offert, il dit « Faites tous vos efforts pour rajouter à votre foi la bonne conduite, etc. La bonne conduite, la vraie connaissance de Dieu, à la connaissance de Dieu, la maîtrise de soi, etc. La persévérance et l'affection fraternelle qui mène à l'amour. » Quel beau programme, n'est-ce pas? Mais que tout cela nous soit offert n'empêche pas que nous soyons obligé de faire l'effort. Faire l'effort, c'est nécessaire. Mais tout ce programme et ces efforts ne sont pas stériles. Cette alliance, elle est conclue par la fin du texte qui dit « C'est ainsi que vous sera largement accordé le droit d'entrer dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Donc, cette commémoration de la Sainte Cène instituée par Jésus contient en même temps le souvenir du sacrifice de Christ, mais aussi notre part, notre engagement, notre alliance, celle qui nous lie à Dieu par Christ. Cette commémoration de la Sainte Cène est non seulement le souvenir de ce que Dieu a fait pour nous, mais aussi le rappel de notre propre implication dans le plan de Dieu. Alors je suis obligé de me poser cette question. Comment est-ce que je vis les moments de Sainte Cène voulus par Jésus? Comme un événement religieux? Comme une routine nécessaire pour montrer que je suis chrétien? Comme un moment triste qui rappelle un événement scandaleux? Je ne sais pas si vous avez déjà vu des tableaux qui représentent la crucifixion. Certains tableaux représentent la crucifixion de Jésus en nous montrant un regard de Jésus, un regard vide, même quelquefois un regard apaisé. C'était évidemment pas la réalité de ce que Jésus a vécu sur la croix. Jésus avait certainement un horrible rictus de douleur. Suspendu par les clous de ses mains, appuyé sur les clous de ses pieds, et puis surtout empêché de respirer par la tension de ses bras qui tendaient ses pectoraux et qui empêchaient sa poitrine de se gonfler. La crucifixion, c'était une mort par étouffement. Et puis, le comble de tout cela, c'est qu'il n'était plus en communion avec Dieu. Séparé de Dieu par notre péché, par mon péché. Si Jésus, dans le jardin de Gethsémani, disait, Matthieu 26, 39, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » S'il en était réduit à dire cela, c'est parce que c'était pas un moment facile, c'était bien un supplice insupportable. Jésus nous demande d'en garder le souvenir. Faites ceci en mémoire de moi. Jésus a quitté plus et mieux qu'une ferme du Middle West. Il a quitté son ciel de gloire. Il n'est pas venu pour des inconnus. Il est venu parce qu'il nous aime et parce qu'il veut notre salut. Et il nous dit, faites ceci en mémoire de moi. Il n'était pas surpris comme notre vétéran sur la plage dormante de ce qu'il découvrait. Il savait parfaitement les douleurs qu'il allait affronter. Et il nous dit, faites ceci en mémoire de moi. Jésus nous rappelle aussi, cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu garantie par mon sang qui est versé pour vous. Eh bien, je confesse que je ne prends pas toujours la mesure de ce sacrifice offert par notre Sauveur. Je confesse que je ne prends pas toujours ma part dans l'alliance que Jésus a garantie par son sang. La Sainte Cène n'est pas un rituel qui banalise notre salut, mais c'est le rappel du prix payé par Dieu pour que l'ennemi qui avait envahi notre être n'ait plus aucun droit sur nos vies. Jésus, en donnant ce repas comme signe, a montré qu'il n'instituait pas une religion, mais plutôt une relation. Quoi de plus convivial qu'un repas? Bien, nous allons prendre ensemble ce repas de commémoration du sacrifice de notre Sauveur et de notre engagement dans cette alliance. Je vous propose qu'avant ce moment de Sainte Cène, chacun puisse exprimer sa reconnaissance, sa louange, son engagement peut-être même son questionnement, peut-être même ses soucis, ses souffrances, peut-être ses maladies, parce que Jésus a porté tout cela à la croix. Peut-être est-ce le moment pour nous de mentionner dans notre cœur, au lieu de dire simplement « Merci pour tout ce que tu as fait pour moi », de mentionner dans notre cœur ce que nous nous souvenons qu'il a enlevé dans nos vies, les choses dont il nous a débarrassés, peut-être même des choses dont nous avons envie d'être débarrassés. La Sainte-Seine, c'est tout ça. C'est vrai que quelquefois, on a l'impression que Jésus a demandé qu'on ait une célébration, un rite. Il a dit, vous prendrez du pain, vous prendrez du vin, et puis vous ferez la Sainte-Seine. C'est pas du tout ça. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en prendrez. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on ajoute à notre vie. C'est pas un rite, une célébration qu'on ajoute à notre vie. C'est quelque chose qu'on intègre dans notre vie. L'apôtre Paul disait, priez sans cesse. Eh bien, oui, Jésus a envie de faire partie de notre vie tout le temps. Prier sans cesse, c'est pas être à genoux au pied de son lit sans cesse, mais c'est pouvoir remettre chaque instant de notre vie. C'est pouvoir remercier pour ce que Dieu nous donne. C'est pouvoir demander l'intervention de Dieu quand on a quelque chose qui va pas. C'est pouvoir bénir Dieu quand on voit la nature. C'est pouvoir bénir Dieu quand on voit nos frères et sœurs. C'est pouvoir partager. C'est la communion fraternelle et c'est l'amour, comme l'énumérait le texte que nous avons lu dans 2 Pierre. Alors, voilà, je vous laisse ce moment avant le partage de la Sainte-Seine pour, à haute voix ou dans vos cœurs, louer Dieu, intercéder, réclamer, apporter, partager, jouir de ces moments de communion fraternelle, bénéficier de la présence du Seigneur qui est présent dans cette salle. Mieux que ça, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il veut être présent dans nos cœurs, dans nos êtres tout entiers, dans notre cœur, notre corps, notre âme, notre esprit. Amen. Seigneur Jésus, je voudrais d'abord te rendre grâce parce que j'avais besoin que tu viennes sur cette terre pour me libérer. Me libérer d'un ennemi qui prenait toute la place. Et je veux confesser, Seigneur, que quelquefois cet ennemi, il essaie de reprendre du temps. Et Seigneur, au nom de Jésus, je veux dénier à l'ennemi toute possession de terrain dans mon cœur, dans mon corps, dans mon esprit, dans mon âme. Seigneur Jésus, je veux te louer pour qui tu es. Je veux te louer parce que tu es venu, mais parce que tu es là, présent, et parce que tu t'offres encore à chacun. Je veux te louer pour les frères et sœurs, pour l'Église. Je veux te louer parce que tu veux encore poser ta main sur chacun. Merci Seigneur pour ta grâce.